C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, le boycottage diplomatique des Jeux de Pékin par les États-Unis ou Beijing. Et Jean-Luc Brassard posait la question tantôt, est-ce que le Canada devrait emboîter le pas? Lui pense que oui. Et Luc, ton point de vue là-dessus?
Moi, je pense comme M. Brassard. Hein? Si M. Brassard dit quelque chose, je voulais dire non, mais... Non, sérieusement, j'ai tellement d'admiration pour lui. Parce qu'il avait réussi sa carrière, tellement réussi sa carrière de sportif.
Athlète, là, ouais.
Puis maintenant, il exerce une influence positive, progressiste et intelligente sur le monde du sport. Alors, mais quand même, il a tout à fait raison. D'abord, il ne s'agit pas d'un petit génocide, hein? Le génocide des Ouïghours, là. C'est le rapport qui a été déposé au gouvernement fédéral était au printemps passé, était extrêmement élaboré. 50 experts internationaux qui ont fait une analyse détaillée, non seulement des centaines de milliers d'emprisonnements dans des camps de travail où l'on pratique la torture. Ça, c'est un. Deux, les assassinats ciblés. Trois, les vieilles techniques de... quand on rend infertile des femmes, là, je me rappelle plus du nom, mais en tout cas...
Stérilisation
de vieilles techniques de stérilisation des femmes. Il y a pratiquement plus une mosquée qui n'a pas été soit endommagée, soit démolie. On refuse d'enseigner la langue dans les écoles. On retire des enfants des familles pour les mettre dans des familles de culture Han. Donc, c'est un génocide tel que décrit dans le dictionnaire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a une convention, c'est la convention de 1948 sur les génocides, qui force le Canada à des gestes précis lorsqu'il fait face à un pays dans lequel il y a des génocides. Alors, le reste après, c'est une question de temps. Donc, est-ce que le Canada va tout de suite ou va attendre un peu pour déclarer son intention de faire le boycott diplomatique? Je pense que c'est une question de temps. Ça devrait être qu'une question de temps. Ce qui retient le Canada, c'est que la Chine, c'est notre deuxième partenaire commercial, de loin, loin, loin derrière les États-Unis, mais c'est quand même le deuxième partenaire commercial. Or, ça fait des années que le Canada travaille sur une diversification des échanges commerciaux parce qu'on est tellement adossé aux États-Unis qu'on se met à risque en ayant un seul gros partenaire commercial comme on l'a vu avec le bois d'œuvre récemment, les tarifs sur le bois d'œuvre qui ont été mis il y a même pas un mois, alors que ce sont deux gouvernements alliés et amis. Le gouvernement canadien doit se dire on cherche d'autres partenaires commerciaux. Mais franchement, ça devrait pas être la Chine.
S'il y a une juridiction qui a goûté à la médecine du régime chinois pour ce qui est du non-respect des droits de l'homme, c'est bien le Canada avec ce scandale lié au kidnapping politique des deux Michael. Les États-Unis ont décidé de mener la marche pour ce qui est du boycott diplomatique. Il faut absolument maintenant que le Canada emboîte le pas. Il ne pourrait en être autrement, étant entendu que si le gouvernement du Canada décidait de faire, en fait, de ne pas imiter ou de ne pas suivre l'exemple des États-Unis, on aurait l'air de s'écraser devant la Chine, alors que les Canadiens demandent au gouvernement, à leur gouvernement, de se tenir debout devant ce géant économique, certes, mais sur le plan politique, à un moment donné, comme on dit, assez, c'est assez. Et moi, je félicite l'administration de Joe Biden pour sa décision. Une décision qui arrive 14 jours, deux semaines après que le président annonçait un grand sommet sur la démocratie. Il y a 110 pays qui sont invités. Il a volontairement exclu la Russie et la Chine. Et cette décision des États-Unis a valeur, parce qu'on parlait d'un symbole. On dit les athlètes pourront participer aux Jeux, mais il n'y aura pas de représentation politique à ces Jeux. Moi, je trouve que c'est plus qu'un symbole. En fait, le message qu'envoie l'administration de Joe Biden, c'est dire la démocratie. Les démocraties dans le monde sont en danger. Il faut absolument poser des gestes pour protéger ce qu'il nous reste de démocratie sur la planète. Tu parlais évidemment du génocide des Ouïghours. Il y a les musulmans turcs. Il y a les Tibétains. Hein? Les Tibétains, mm-hmm. Mon Dieu, qui subissent les affres du régime chinois depuis des années. On dit que depuis 2009, il y a 155 Tibétains qui se sont immolés pour contester justement le régime de Pékin. Il y a Hong Kong, évidemment. Il y a aussi la population qui, elle, à tous les jours, est surveillée. On prend de l'ADN des citoyens pour mieux les contrôler avec le big data, les données. Là, on s'assure de les suivre à la trace. On brime la liberté de religion, la liberté de déplacement, la liberté de parole. C'est un régime de terreur, littéralement. Alors, on ne peut pas être associé politiquement à un événement, oui, certes sportif, mais il faut envoyer le message qu'à un moment donné, c'est comme, faut que ça s'arrête, faut que ça arrête, et on sait que ça n'arrêtera pas, mais au moins, il faut que le Canada se tienne debout. Et rappelez-vous, hein, derrière les Jeux olympiques, là, Pierre de Coubertin, les valeurs qu'il véhiculait lorsqu'on a créé les Jeux olympiques, mais moi, je trouve que c'est plutôt gênant de la part de la Chine de tenir des Jeux olympiques sur son territoire, compte tenu de tout ce qu'on lui reproche sur le plan du respect des droits humains.
Mais là, la question qui suit, évidemment, c'est pourquoi leur accorder des Jeux? Si le portrait qu'on vient de faire est conforme tout à fait à la réalité, comment se fait-il qu'ils ont réussi à obtenir les Jeux? C'est pas nouveau, là, ce qui se passe là.
Exact.
Parce qu'une stratégie, il y a eu longtemps une stratégie d'amadouer. On voulait les impliquer. On s'est dit, puisqu'ils sont impliqués jusqu'au cou dans des échanges économiques avec l'Occident, et puisque l'Occident est impliqué jusqu'au cou l'investissement en Chine, là, parce que, par exemple, j'ai hâte de voir la réaction de l'Allemagne. Là. L'Allemagne là, vend et produit plus de Mercedes en Chine que n'importe où ailleurs au monde. Là. Donc, puisque les échanges sont fructueux, les échanges de personnes aussi, il y a 5% de la population canadienne qui est d'origine chinoise. Échange de personnes, échange de biens, échange de services. Ben là, après ça, il restait culture, sport, diplomatie. On s'est dit, ça va suivre. Ben non. C'était mal connaître Xi Jinping, qui est un tyran, la définition d'un tyran. Et de toute manière, si c'est pas maintenant qu'on les boycotte, ça, puis moi, j'espère que le Canada va suivre les États-Unis avant l'Europe pour envoyer le signal à l'Europe, parce que l'Europe va hésiter à le faire. Puis, mais si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Parce que dans tous les domaines, la question de l'espionnage industriel, la question d'espionnage même de nos laboratoires canadiens de santé et de sciences est sur le tapis avec le vol de données puis les comportements de deux chercheurs chinois dans les laboratoires du Manitoba sur les virus, justement. C'était un exemple, mais il y en a plein d'autres.
Ouais.
Et aussi le comportement de la Chine avec la COVID.
Absolument,
alors,
tout à fait.
Affaire réglée, j'espère que M. Trudeau va aller rapidement. Et les gens qui connaissent la Chine, nous, on connaît pas la Chine. On lit les gens qui connaissent la Chine. Et on lit qui? On lit Guy Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est arrêter d'avoir des hésitations. Eux n'en ont pas.
Mmh. Oui, exactement. Guy Saint-Jacques, l'ex-ambassadeur du Canada là-bas en Chine. Mais Paul, à ta question, j'ai envie de te dire, le cash, l'argent, malheureusement, parfois, c'est plus fort que la politique. La Chine est un géant sur le plan économique, mais j'ai envie de dire, c'est un géant au pied d'argile. Le jour où plus de 100 pays vont se fédérer et se solidariser pour dire, écoutez, on va peut-être diminuer les activités commerciales avec la Chine, peut-être qu'on pourra un peu commencer à ébranler les colonnes du temple, quoi que j'en doute, mais il faut envoyer un message très, très fort sur le plan politique. Et ça veut aussi dire de dire non au contrat de Huawei. Parce qu'après, après ce qu'on a vécu avec Meng Wanzhou. Puis en passant, arrêter Meng Wanzhou au Canada, c'est comme si la Chine avait procédé à l'arrestation de Bill Gates, là, pour vous dire à quel point ça a résonné en territoire chinois. Alors ça, on ne peut pas accorder. Je ne vois pas comment le gouvernement canadien pourrait accorder le contrat de la 5G à Huawei. À un moment donné, il y a des maudites limites à se faire piler sur le corps, à se faire marcher dessus. Là. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, la politique étrangère de Joe Biden, je disais ça dans la presse hier, la lutte contre les autocraties est au cœur de sa politique étrangère. Je me dis, enfin, il y a un chef d'État puissant qui se lève debout et qui dit à un moment donné, non, il faut dénoncer l'obscurantisme des régimes comme la Russie, comme la Chine. Et pour moi, je trouve que c'est comme une espèce de zone de lumière qui apparaît dans toutes ces zones d'ombre, malheureusement, qui créent d'énormes préjudices à des millions de citoyens sur la planète. Luc, tu parlais de ce qu'on fait aux Ouïghours. Là, c'est terrible. Là. Écoute, enlever des enfants de leur famille, les envoyer dans des espèces de pensionnats, stériliser des femmes contre leur volonté. C'est terrible. On est en 2021. On ne peut pas tolérer ça.
On s'arrête là-dessus. Au retour, le Canada qui envisage d'autoriser le rejet des eaux usées des sables bitumineux dans la nature. Je ne sais pas quelle question qu'on veut poser après ça, mais quand même.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le Canada qui envisage d'autoriser le rejet des eaux usées des sables bitumineux dans la nature, est-ce que ça prend une forme de consensus social là, pour que ça se fasse?
Ben, tu vois, Paul, moi, en voyant la nouvelle qui a été publiée sur le site de Radio-Canada, j'ai imaginé Luc déchirer sa chemise. Je me suis dit, ah, je vais pouvoir m'indigner avec mon ami. Mais là, en lisant la nouvelle, je me suis dit, oups, la réalité est beaucoup plus nuancée. En fait, oui, Ottawa, le ministère de Stephen Guilbeault, ministère de l'Environnement, envisage d'adopter un règlement pour autoriser le rejet des eaux usées, des sables bitumineux dans la nature. En fait, on veut rejeter tout ça dans la rivière Athabasca, qui est la plus grande rivière de l'Alberta, qui est une rivière patrimoniale à l'échelle canadienne. Et en lisant la nouvelle, je me suis dit, oh, attends une minute, là. En fait, on veut évacuer l'équivalent de... Parce qu'il faut savoir que les eaux des sables bitumineux qui permettent de séparer le pétrole du sable sont stockées dans des bassins de décantation. Il y a l'équivalent de 560 000 piscines olympiques qui sont stockées un peu partout là dans le nord de l'Alberta. Et le gouvernement de l'Alberta, depuis l'été 2019, tient, en fait, mène un projet pilote avec une entreprise qui s'appelle Syncrude pour voir comment on peut traiter les eaux usées pour éviter que le fait qu'elles soient dans des bassins contamine les nappes phréatiques. En fait, on a peur que tous ces bassins, toute cette eau stagnante cause davantage de préjudice à l'environnement que si on réussit à les traiter, à les évacuer dans l'environnement. Alors, vous voyez, la réalité est beaucoup plus nuancée. Je dis, ça prend une solution. Il semblerait que ça prend une solution, mais je suis pas certaine que on est mûr pour la solution que s'apprête à adopter Ottawa.
Mais effectivement, c'est difficile d'en juger. Il y a des experts qui ont dit que le système de filtration qui est proposé pour avant d'évacuer l'eau serait satisfaisant. D'autres ont dit « over my dead body », c'est pas vrai du tout. Et ça prendrait beaucoup, tellement d'argent pour faire un système de filtration efficace que le gain économique de faire du pétrole en Alberta viendrait de disparaître. Mais quelle fuite en avant quand même. On a commencé par les mettre dans des bassins en disant « Ah, mais ça va être des grands bassins, faites-vous-en pas, on en a pour longtemps. » Puis ils sont étanches. Là, maintenant, on dit « Oui, mais là, on en a plus, ça en prendrait des nouveaux, puis ils sont pas étanches. » Alors, sont-ils étanches, sont-ils pas étanches?
C'est la question.
C'est ça. Premièrement, on n'a pas des analyses pour les bonnes analyses pour la fuite de ces des eaux vers le territoire. Mais ce qui est amusant, c'est au moment où ils les font, ils ont aucun doute qu'il fallait les faire. Puis au moment où ils veulent les vider, ils ont aucun doute qu'il fallait les vider. Mais c'est tout le temps en fonction de leurs intérêts, par contre. Moi, je dis, il faut sortir. Ben, pas juste moi, je dis, l'Association internationale de l'énergie, donc l'association de tous les producteurs d'énergie du monde, pas l'association des écologistes qui se promènent avec une passoire sur la tête puis font le tour du quartier en tapant sur une casserole. L'Association internationale de l'énergie dit, faut sortir des sables bitumineux. Faut sortir des sables bitumineux. C'est 10 fois plus de pollution pour un baril que, par exemple, l'extraction du pétrole en mer du Nord par la Norvège ou l'Angleterre. 10 fois plus. Alors, faut en sortir. Si les prévisions de l'Alberta, c'est qu'en ce moment, ça va bien, ça roule au toast, puis qu'ils veulent augmenter 700 000 barils par année pendant 10 ans, mais ils savent eux aussi que ça va s'effondrer en 2030. Mais s'effondrer en 2030, s'effondrer en 2021. Là. Choisissons donc, on a juste 9 ans de toute manière de différence. Alors, choisissons une sortie du pétrole honorable qui va à la fois protéger l'environnement puis qui va nous permettre de créer des emplois en attente de la sortie du pétrole et en préparation de la sortie du pétrole plutôt que d'attendre l'extrême dernière minute.
Oui.
Le pétrole, c'est 74% des emplois du pétrole sont concentrés en Alberta. 5 milliards de dollars de revenus du gouvernement albertain sont liés au pétrole. Alors, on l'a le chiffre devant nous. C'est pas rien, là. C'est 5% de l'économie canadienne. C'est pas rien, là. C'est 5 milliards de revenus pour l'État. C'est 74% des emplois qui sont liés à l'Alberta. L'industrie dit 500 000, c'est sans doute beaucoup moins. Est-ce qu'on est capable de sortir du pétrole? La réponse, c'est oui. On le fait dans bien d'autres domaines. Montréal, c'est une ville de développement industriel avant. En 1990 jusqu'à l'an 2000. Là, il restait encore en l'an 2000. Il restait plus de 200 000 emplois dans l'industrie. Maintenant, il en reste quoi? Il en reste des centaines seulement. Pourquoi? On est sorti du développement industriel. L'Ontario est sorti du charbon.
Oui, mais en passant, on cherche encore la façon de relancer l'économie de l'Est de Montréal. Deuxièmement, tu peux pas diversifier l'économie de l'Alberta en claquant des doigts. Mais je suis d'accord avec toi, Luc, il faut absolument trouver une façon de diversifier, d'assurer une transition écologique, on entend souvent l'expression, la plus ordonnée possible. L'autre chose, demain matin, on appuie sur un bouton, on dit c'est fini l'exploitation des sables bitumineux, tu as quand même un défi environnemental colossal devant toi. Tu fais quoi avec ce 1,4 billion de mètres cubes d'eau polluée, polluée aux métaux lourds qui sont stockés dans des bassins de décantation pour lesquels effectivement t'es pas certain qu'il pourrait pas y avoir un danger sur le plan environnemental. Il pourrait peut-être y avoir des fuites dans le sous-sol albertain. Alors le gouvernement avec des entreprises dans le domaine de la recherche, écoute, il y a une vingtaine de projets, il y a 57 projets de recherche qui sont en cours actuellement pour trouver des solutions à la façon dont on va récupérer toutes ces eaux usées. Mais parce que c'est un immense défi environnemental, mais on connaît la fin de l'histoire, Luc, c'est juste qu'il faut écrire les chapitres pour arriver à la conclusion.
Justement, il faudra que quelqu'un prenne le crayon. J'espère que ça va être le triumvirat là, Guilbeault, Wilkinson, Freeland, qui sont trois vrais environnementalistes au sein du gouvernement. Mais il faut qu'ils le fassent le plus rapidement possible, parce que une des possibilités de transition vers une économie plus verte, c'est justement ce que tu viens de mentionner, Nathalie, c'est de commencer à réfléchir à la récupération des sites. Tu sais que le Canada investit 1 milliard par année dans la récupération des anciens puits de pétrole abandonnés. Mais il faut qu'ils mettent sur sa liste aussi les résidus d'eau et de sable contaminé liés au sable bitumineux. Ce serait la deuxième. Et ça s'en vient, là, regarde, Keystone XL a été fermé par les États-Unis. Il y a le Michigan qui est en train d'essayer de lutter contre la rénovation d'une partie de Enbridge qui passerait sur son territoire. De plus en plus, il va y avoir de la résistance à l'exportation des sables bitumineux. Commençons tout de suite, puis commençons par cet enjeu majeur-là qui est la récupération des sites.
Oui, mais tu vois, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai pensé aux millions de litres d'eau usée qu'on a jetée dans le fleuve Saint-Laurent. Vous rappelez-vous, là, ça avait causé tout un choc la première fois on a appris ça.
Ouais, mais on n'avait pas le choix à ce moment-là, non?
Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était ponctuel. C'était 8 milliards de litres, c'était énorme. C'était ponctuel, lié à la réparation d'une station de pompage. Maintenant, je pense qu'on va arriver à éviter le problème dorénavant. Mais juste une chose, tu te rappelles, Nathalie, t'as raison de parler de ça. Te rappelles-tu que c'est l'argument qui avait été utilisé par Kenney pour dire le Québec n'est pas exempt de problèmes environnementaux, là?
Oui, tout à fait. Ouais. Absolument. Mais bon, c'est comme quoi l'herbe n'est jamais très plus verte dans la cour du voisin. Sur le plan politique, Jason Kenney souffre de ça évidemment parce que beaucoup de ses détracteurs, ses opposants, lui disent il faut préparer l'après industrie pétrolière, sinon on ne s'en sortira jamais. Alors, mais sur le plan, à l'échelle canadienne, c'est un immense défi que nous avons sur le plan environnemental et j'ai bien hâte d'entendre Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, essayer de justifier politiquement cette décision, étant entendu qu'on a les réponses à cette capacité qu'on aurait de traiter des eaux usées qu'on jetterait dans une rivière patrimoniale, on n'a pas toutes les réponses.
Est-ce que tu me permets un petit doute sur M. Guilbeault? M. Guilbeault, lui, en privé, puis dans sa marge de manœuvre, bien sûr qu'il va s'exprimer contre. Mais n'oublions pas que les subventions au gaz bitumineux ont été plus élevées sous Trudeau que sous Harper. 700 millions de dollars de plus par année sous Trudeau que sous Harper. Trudeau a cette position intenable de dire on va se servir du pétrole pour financer la relance verte. Il s'est mis dans ce coin-là, puis ça a pas d'allure. C'est comme quelqu'un qui battrait sa femme et dit je vais te payer des massages
par ailleurs.
Mais c'est pareil, lui il bat la nature, puis après ça ils ont essayé de réparer.
Mais t'oublies un bout de l'histoire. Justin Trudeau aussi a affirmé que c'était terminé les subventions à l'industrie pétrolière. Il a aussi dit durant la dernière campagne électorale.
Oui, c'est vrai, mais ça fait deux fois qu'il le répète, on a hâte que ça se fasse.
C'est comme les armes à feu finalement.
C'est une position.
Merci à tous les deux, on vous retrouve demain.
C'est 23.